Quelle est la situation actuelle des intermittents du spectacle? Véronique Hermant a interviewé deux d'entre eux, acteurs culturels dans le Verdon.
En 2017, Zoé et Johan Lamarche lancent le premier festival Aux Énergies à Serranon, près de Castellane. Johan est à l'origine de la conception du projet et tous deux sont co-organisateurs. Aux Énergies est né pour toucher les consciences sur la façon dont l'humain traite la Terre et donner à réfléchir sur le changement de nos comportements. 2018, le festival s'améliore et en 2020, le choix d'un terrain situé à Castellane doit répondre à des contraintes imprévues liées au parc naturel régional du Verdon, puis l'épisode du Covid-19 démarre. Comme la majeure partie des manifestations, l'édition 2020 n'aura pas lieu. Dans ce reportage réalisé par Véronique Hermant, Zoé et Johan évoquent la situation incertaine des intermittents du spectacle. Ils avancent également quelques idées pour remédier à la surconsommation et à l'utilisation d'énergie polluante. Dans une version complète disponible sur notre site Fréquence Mistral Castellane, ils abordent l'objectif et la partie organisation du festival.
Johan, quel était votre objectif en créant le festival Aux Énergies? Par quoi étiez-vous porté et pourquoi l'avez-vous baptisé ainsi?
Pour commencer, j'ai créé le festival Aux Énergies pour rassembler un maximum de personnes dans le but de leur faire connaître tout ce qui était énergie renouvelable. Le projet de base du festival Aux Énergies était d'alimenter tout le festival en énergie propre et durable, donc photovoltaïque, éolien et toute autre énergie qui existe aujourd'hui en renouvelable. La première année, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais la deuxième année, on a réussi à faire 42% d'énergie renouvelable pendant 3 jours, sur tout le festival, avec 3 générateurs solaires qui étaient, eux, raccordés à plusieurs endroits pour alimenter, par exemple, les food trucks, un peu la scène de musique et toute la partie bivouac, billetterie et le bar. Pourquoi le nom du festival Aux Énergies? Pour moi, Aux Énergies, ça devait être en phase avec ce que l'on proposerait sur le festival, donc du coup, toutes les énergies, qu'elle soit humaine, tout ce qui était en énergie positive, donc la méditation, le yoga, une nourriture saine, c'est une bonne énergie. Et ensuite, la deuxième, c'était une énergie renouvelable et propre, avec le fait de pouvoir alimenter un festival en énergie photovoltaïque.
Zoé, comment avez-vous évolué entre la première édition, enfin la découverte, la deuxième et la préparation de la troisième qui a été annulée puisque c'est 2020?
On s'est affirmé dans notre schéma organisationnel, on a appris à s'entourer aussi différemment et on a beaucoup travaillé sur l'impact environnemental du festival. Il y a plusieurs outils sur internet qui existent qui permettent d'évaluer l'impact environnemental d'un événement comme celui-là. Et on a essayé de travailler sur différentes sources de pollution, sur la quantité de déchets générés, on a travaillé sur la quantité d'eau qu'on utilise. On a toujours refusé par exemple de vendre des bouteilles d'eau. Des bouteilles de cristalline, comme on en voit dans tous les festivals, on n'a jamais fait ça. On a travaillé sur l'alimentation, boissons et nourriture, on se fournissait au plus près, en général à moins de 100 km, en bio quand c'était possible, sinon en local. Tous nos food trucks devaient coller à ces conditions-là, donc pas de vaisselle plastique jetable, une certaine qualité au niveau des matières premières. Ensuite, donc, comme l'a dit Johan, on a travaillé beaucoup sur l'énergie, et on a essayé de faire en sorte que 48% du festival soit alimenté par l'énergie renouvelable. Donc c'est ce qu'on aurait voulu faire aussi la troisième édition. On aurait voulu aller encore plus loin que ce chiffre-là.
On aurait pu.
Malheureusement, voilà, ça s'est pas fait.
Vous êtes tous les deux intermittents du spectacle?
Oui.
Oui.
Comment vivez-vous cette période de non-activité?
C'est pas facile parce que normalement on est en plein festival de Cannes à cette époque-là. Sur la Côte d'Azur, l'hiver, c'est vrai que c'est assez long. Une activité professionnelle, c'est quand même assez long et on attend l'été avec impatience.
Donc, parce que vous travaillez sur la Côte d'Azur?
On travaille beaucoup sur la Côte d'Azur, ouais. Et en été, juillet-août, on part faire des festivals.
En France, particulièrement.
Ouais, dans toute la France.
En tant qu'intermittent.
Technicien.
Après, on peut pas se plaindre parce qu'on a quand même de la chance par rapport à d'autres secteurs professionnels, à savoir que Monsieur Macron est en train de faire passer un décret qui validerait l'année blanche, même s'il veut pas l'appeler comme ça, mais ça reste une année blanche. Du coup, ça nous laisse quand même vachement de temps pour refaire notre statut d'intermittent et surtout conserver un salaire, parce que s'il n'avait pas mis ça en place, moi par exemple, dans 2 mois, parce que je renouvelle mon statut le 15 août, dans 2 mois, je perdais tout salaire, je suis tombée à zéro.
Pour l'instant, ça n'est pas encore validé, c'est une annonce qui a été faite par la presse.
Alors oui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de décret encore.
Non, il n'y en a pas.
Donc ça a été annoncé, on attend le décret d'application.
On aimerait bien être fixé pour qu'on prenne nos dispositions au niveau de notre travail en fait et notre position.
S'il n'y a pas d'année blanche et que vous ne pouvez pas travailler, vous faites comment?
Après moi ça va parce que j'étais pas que intermittent du spectacle dans toute ma vie professionnelle et active. Du coup je peux rebondir sur une autre activité dans un autre secteur. Mais après, pour les autres, je trouve ça pas très bien pour eux de nous laisser comme ça dans le flou. Je pourrais même dire le flou artistique. En fait, on sait pas. On se lève tous les jours en se disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre statut est repoussé d'un an? Est-ce que les événements vont reprendre en juin, en juillet, ou en août ou en septembre? On n'en sait rien. On n'a aucune communication là-dessus. Et ça nous bloque dans le fait que est-ce que j'arrête tout maintenant l'intermittence? Est-ce que je suis dans un autre secteur d'activité et je suis capable de le faire? Ou est-ce que j'attends encore un mois ou deux mois?
C'est l'attente.
C'est l'attente.
Un peu pesante.
C'est ça qui est pesant.
Voilà. Après, comme il a dit M. Macron, on se réinvente. Hein. On a plein de groupes d'amis, parce que nos collègues sont aussi nos amis pour la plupart, qui montent des projets pour proposer des lives sur les réseaux sociaux, mais des lives techniquement plus poussés que ce qu'on peut voir maintenant. Il y a plein de choses qui se font. Après, est-ce que ces projets qui sont lancés pendant le confinement et pendant l'arrêt du secteur culturel, ça va être pérenne ? Sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ça, on ne sait pas. Est-ce que ça aura lieu d'être encore dans quelques années ou quelques mois? On ne sait pas non plus. Parce que si les événements reprennent, il n'y a plus de raison de faire des choses en privé sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est plus l'attente, en fait, qui est un peu dérangeante. Mais après, voilà, je le répète, on ne peut vraiment pas se plaindre par rapport à d'autres personnes.
Non, on ne se plaint pas.
D'autres pays, surtout.
D'autres pays aussi, surtout, oui, parce qu'on est quand même assez privilégiés en France.
En quelques mots, Zoé, comment aimeriez-vous voir l'avenir ?
Pas comme avant le Covid, je trouve ça bien tout ce qui s'est fait pendant le confinement, enfin en tout cas à Serranon dans les campagnes. Il y a des petits mouvements citoyens qui se sont mis en place, des petits réseaux d'entraide, ça s'est fait tout naturellement, des gens qui vont faire les courses pour les autres, etc. D'ailleurs pas que chez nous, hein, je pense que dans les villes ça s'est fait aussi. Les gens ils ont réappris à mieux manger, à s'occuper de leur famille, à appeler les leurs, à penser à autre chose qu'à leur travail et à être productif, et ça, je trouve ça chouette. Après, je sais qu'on peut pas bannir le travail, évidemment, mais j'espère que ça va changer les mentalités un petit peu, que les gens ils vont se recentrer sur ce qui est un peu plus essentiel, on va dire.
C'est-à-dire solidarité, entraide, famille.
Ouais. Oui, voilà. Mmh. Et puis, joie, bien sûr, c'est heureusement. Mais on a toujours eu de la joie, c'est pas tellement ça. Aller acheter une fringue chez Etam, ça vous donne de la joie, mais c'est pas vraiment ça le fondamental. Mais pour la plupart des gens, c'est le cas. Par des gens, ils vont faire du shopping, ça leur fait plaisir. C'est là où je voulais en venir, c'est que la surconsommation, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'est pas une source de bonheur et n'est pas une source de joie. Et ça, oui, si on peut l'enlever de nos têtes, ce serait bien.
Et vous, Johan ?
Comment je vois l'avenir ? Je vois surtout un avenir avec des personnes qui auront des vraies valeurs et qui vont consommer autrement, parce que ce que j'ai pu voir de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, il y a vraiment une énergie qui se met en place au niveau de tout ce qui est justement manger local. On a su aussi ne plus consommer, comme disait Zoé, d'aller dans un magasin pour aller acheter une fringue. Bah en fait, depuis 2 mois, personne n'est allé acheter une fringue, et puis c'est pas pour ça que vous n'arrivez pas à vous habiller tous les matins. Je pense que c'est un tournant, très très bon tournant d'ailleurs, pour l'être humain, pour tout ce qui est autour, la faune, la flore. Après, malheureusement, il y a des gens qui ne sont plus, qui font plus partie de cette planète. Mais en même temps, peut-être que parfois, il faut passer par ça pour que l'être humain comprenne que on peut pas tout consommer comme ça, on peut pas gâcher là où on vit. Parce qu'en fait, la Terre nous appartient pas. On y est, on y vit, et on doit vivre avec elle. On doit pas détruire ce qu'il y a. Parce que si on détruit ce qu'il y a autour, nous, on va se détruire aussi. Donc si on se détruit aussi, nous on sera plus là. Bon, c'est peut-être pas bien grave.
La Terre va survivre.
Mais la Terre va survivre. Tout le monde le dit, depuis 50 ans, il y a des chercheurs et des physiciens qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant on peut vivre autrement, on peut consommer autrement, il faut juste que le cerveau humain se dise qu'on va pas vers une belle consommation, on va vers une consommation qui est facile. On va à la simplicité. Mais quand je vois des gamins de 20 ans qui savent pas faire à manger, moi je mets des vidéos de gamins qui se font des plats chez eux. Je suis flippé parce qu'ils savent pas faire des pâtes, ils savent pas faire des œufs, et c'est pas ça la vie. La vie,
c'est-à-dire que vous souhaitez une société plus responsable.
Oui, c'est ça. On est déresponsabilisé de tout en fait. Quand on se lève le matin, soit on fait juste un thé ou un café, et puis on s'en va travailler. Et puis le midi, on va manger, on va acheter un sandwich. Et puis le soir, on rentre, on va acheter une pizza. Mais non, en fait, la vie, c'est pas ça. En fait, la vie, c'est on se lève tôt le matin, normalement, on se prépare notre petit déjeuner avec tout ce qu'il y a, toutes les courses qu'on est allé faire. Et puis le midi, si on a le temps, on va manger dans un endroit qui est respectueux de la santé, de tout ce qui est consommable au niveau de la nourriture. Et puis le soir, on fait pareil. On se fait un plat, puis si on n'a pas le temps, on va peut-être à côté un magasin qui vend des plats déjà tout faits, emportés, mais pas un fast-food. Je ne vais même pas donner de marque, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de marques de fast-food qui existent dans le monde. Il faut arrêter, c'est ce qui pollue le plus. Et c'est un poison pour le corps. Donc ça, c'est une première chose par rapport à la nutrition, par rapport à la vie de tous les jours. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la consommation électrique, la consommation de tous les appareils énergivores que vous avez chez vous. On peut se séparer d'un micro-ondes et ensuite on peut aussi acquérir un système photovoltaïque. Aujourd'hui ça coûte peut-être 10 fois moins cher qu'il y a 30 ans. Il y a des produits qui s'améliorent tous les jours. Il y a des panneaux solaires, il y a des batteries. Alors vous allez me dire, oui, ça pollue. Mais en même temps, une centrale nucléaire, ça pollue. Si tout le monde aujourd'hui fait un geste entre comment bien se nourrir et comment bien consommer son électricité chez soi, on va réduire considérablement notre impact. 2 mois en confinement, il y a des chiffres exceptionnels qui ressortent. On a baissé la fabrication, on a baissé le CO2. En fait, on a tout baissé. Et pourtant, on vit, on n'est pas mort. Moi, j'ai pas perdu 10 kilos en 2 mois. Non, j'ai très bien vécu. Tout va bien. En fait, à la fin, le message, et c'est pour ça aussi que j'avais créé le Festival aux Énergies, c'était de comment vivre et consommer autrement et bien pour la vie, pour la planète et pour la Terre, et pour notre impact écologique du moment où on est jusqu'au moment où on meurt.